Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Éclairage s'intéresse aujourd'hui aux dons d'organes. En France, depuis 1968, date à laquelle les dons d'organes ont été autorisés, plus de 30 000 malades ont été transplantés en France. Grâce au progrès de la médecine, la greffe est devenue une nouvelle réponse, une nouvelle solution pour guérir les patients. Et chaque année, ils sont presque 10 000 à s'inscrire sur un registre d'attente de greffe. Mais la demande est beaucoup plus importante que l'offre. Seules 3 200 greffes sont réalisées sur les 10 000 attentes. Elle ne prend pas en compte ces 10 000 attentes les greffes de moelle osseuse ou les greffes de tissu, mais cette attente risque de devenir de plus en plus importante, d'une part parce que les premiers transplantés attendent parfois de nouveau une nouvelle greffe, et d'autre part parce que les Français sont de moins en moins favorables à l'idée de donner leurs organes en cas de mort cérébrale. Alors une des réponses apportées pour contrer cette pénurie, c'est le don de vivant à vivant, c'est ce qu'on appelle les transplantations hépatiques avec donneur vivant, THDV, qui est autorisé depuis 1976, mais avec des conditions et nous verrons lesquelles. Alors notre émission ne sera pas un plaidoyer en faveur du don d'organes, elle visera surtout à comprendre les enjeux des transplantations, aussi bien pour les médecins que pour les donneurs, de moins en moins nombreux, et les receveurs, au contraire, de plus en plus nombreux. Et puis si nous connaissons bien le parcours des receveurs, en revanche, nous ne connaissons que peu de choses sur les conséquences pour un donneur vivant. Alors faut-il que le don soit anonyme ? Le terme de don est-il exact à la base ? Faudrait-il que l'on préconise, comme le souhaitent certains médecins, que le don soit rétribué, mais peut-être sous-évalué tout de même pour ne pas favoriser un commerce potentiel ? Toutes ces questions éthiques, nous allons les aborder avec Valérie Gâteau qui est avec nous en studio. Valérie Gâteau, bonjour.
Bonjour.
Merci donc d'être à Canal Académie, au cœur de l'Institut de France à Paris. Vous avez soutenu votre thèse en 2006 intitulée « Enjeux éthiques des transplantations hépatiques avec donneur vivant, THDV ». Alors, vous êtes philosophe, hein ?
Oui.
Vous travaillez avec Anne Fagolargeot au Collège de France, à la chaire de philosophie des sciences biologiques et médicales.
Exactement.
Nous avons eu l'occasion de recevoir Anne Fagolargeot qui nous a vanté vos travaux et puis surtout vos qualités. Donc nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui. Alors, dans votre introduction, dans l'introduction de votre thèse, vous expliquez un peu les raisons pour lesquelles vous êtes intéressé à ce sujet-là. Alors, vous dites, je vous cite, « Il peut paraître étonnant qu'une thèse de philosophie prenne pour objet les enjeux éthiques des transplantations hépatiques avec donneurs vivants. Ce titre révèle en lui-même le pari que représente ce travail, philosopher à partir d'une situation concrète qui pose question en termes éthiques. » Alors, aujourd'hui, Valérie Gâteau, est-ce que réellement le don d'organes pose problème en France ?
Alors, bien évidemment, le don d'organes pose problème à l'heure actuelle en France. Sans doute, il a posé problème dès ses débuts, presque. Pas dans ses débuts à propos du donneur vivant, puisque c'était une modalité qui a permis de commencer à faire des greffes. Au départ, on ne savait pas prélever des donneurs décédés, donc on a commencé par prélever des donneurs vivants. Mais c'était suffisamment marginal pour que la question soit peu abordée, en tout cas au niveau international. Puisqu'en France, dès le début... les médecins étaient ennuyés à l'idée de prélever quelqu'un qui était en bonne santé pour soigner quelqu'un qui était en mauvaise santé. Et donc, en France, on parlait de mutilation. Ce qui est un vocabulaire qui a été utilisé uniquement en France, pas du tout au niveau international, où, étant donné que c'était la famille, les proches qui se proposaient pour sauver un de leurs proches, on considérait que le risque était tout à fait raisonnable et qu'on pouvait comprendre qu'un proche prenne un risque pour soigner quelqu'un qui lui était cher. Ensuite, c'est essentiellement le prélèvement sur donneur décédé qui a permis la réalisation des greffes, puisque ça a permis de prélever des gens sans les blesser, étant donné qu'ils étaient décédés. Donc, on ne blessait plus le donneur et on pouvait soigner le receveur. Donc, ça a été un soulagement. On a eu vraiment le sentiment que, enfin, la greffe pouvait démarrer, être efficace et ne plus nuire au donneur. Et puis, il y a eu peu à peu des questions qui ont concerné d'abord le donneur décédé, du coup, puisque c'était la pratique standard, ce qui est toujours le cas en France. La pratique standard, c'est de prélever des donneurs décédés. Des questions qui ont eu trait essentiellement à la notion justement de mort cérébrale, c'est-à-dire quand est-ce qu'on considère qu'une personne est décédée en termes de mort cérébrale, quand est-ce qu'on considère qu'il n'y a plus aucune fonction du cerveau qui fonctionne, et donc quand est-ce qu'on considère à ce moment-là qu'on peut la prélever.
Alors, justement, on va faire peut-être un retour en arrière, finalement un petit retour en arrière, puisque la question de transplantation en France est assez récente, hein. Ça date de 1968, où on autorise, après je crois qu'au niveau légal, ça sera encore un peu plus tard, hein, au niveau des années, et en 1968 apparaît donc l'autorisation des transplantations, et apparaît également cette notion de mort cérébrale, hein, que vous venez d'expliquer, que vous venez donc de nous donner. Comment apparaît ce terme de notion de mort cérébrale? Avant, on ne faisait pas de distinction entre mort cérébrale et la mort tout court.
Cardiovasculaire. Ouais, la mort habituelle, entre guillemets, qui est la mort cardiovasculaire. Il me semble que c'est un peu plus progressif, hein, que les premières démarches commencent en 1947 pour les prélèvements de cornée, puis effectivement dans les années 60, ensuite dans les années 70, il y a différentes étapes comme ça qui permettent peu à peu de prélever des donneurs décédés. En particulier en 76, il me semble, avec la circulaire Jeannonnet, etc. Mais enfin, j'ai pas les dates précises en tête, c'est pas vraiment la question. Mais c'est, en fait, la découverte de la mort cérébrale n'est pas liée au prélèvement au départ. Elle est liée au progrès de la réanimation. Et en particulier aux possibilités qu'on a eues de mettre quelqu'un sous assistance respiratoire, de perfuser quelqu'un et donc de lui fournir les nutriments, l'eau, etc. Et donc, en tout cas, de prolonger la vie de gens qui étaient autrefois condamnés. Alors ça a commencé avec le simple fait qu'on puisse réanimer quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, c'est-à-dire faire un massage cardiaque, faire du bouche à bouche, etc. Ces premières techniques ont laissé penser que l'arrêt cardiaque n'était pas forcément une fatalité et ne conduisait pas nécessairement à la mort. Mais du coup, deux médecins, Goulon et Mollaret, qui étaient des médecins réanimateurs, qui se sont trouvés au bout d'un certain moment dans la situation où ils avaient réanimé des gens dont le cœur s'était arrêté, et puis ils se sont trouvés en fait avec des gens dont ils ont pensé que jamais ils ne se réveilleraient. C'est-à-dire que les dégâts, le manque d'oxygène qui avait résulté de l'arrêt cardiaque ou d'un accident vasculaire ou d'autres causes de la mort, était tel au niveau du cerveau, le cerveau avait tellement manqué d'oxygène, que ces gens-là ne reviendraient jamais à la conscience. Et donc ils ont appelé ça au départ un coma profond, coma de phase 4, jusqu'à ce que peu à peu on décide que ce n'était plus de l'ordre du coma, puisque c'était des gens qui n'avaient plus aucune activité cérébrale, qui n'avaient plus d'éveil, qui n'avaient plus rien qui puisse justifier qu'on parle de coma, mais plutôt les critères de ce qu'on pouvait penser être la mort, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on débranchait la machine, il était sûr que toutes les fonctions vitales s'arrêteraient. Et donc c'est cette découverte-là dans le monde de la réanimation qui a peu à peu fait penser que ces gens-là, qui étaient maintenus en survie artificielle, mais qui étaient en pratique morts, pouvaient être prélevés, puisque leurs organes étaient bien conservés. Ils n'avaient pas souffert d'un manque de sang, d'un manque d'oxygène, et donc ils étaient bien conservés.
Et bien sûr, c'est à différencier de l'état végétatif.
Oui. Dans l'état végétatif chronique, hein, qui est un état où effectivement il n'y a pas de conscience de la personne, il y a certaines fonctions du cerveau qui sont conservées, et en particulier la fonction éveil-sommeil. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont à un moment donné de la journée ouvrir les yeux, même s'il n'y a aucune conscience, aucun partage avec l'extérieur, il y a un minimum d'éveil et de sommeil. Et puis ce sont des gens qui sont souvent sous respirateur, mais dont certains respirent seuls. Ce sont des gens qui parfois sont nourris par sonde, mais parfois ne le sont pas. Donc c'est en fait une forme de vie végétative au sens où il n'y a plus de conscience, mais avec des gens qui ne sont pas morts. C'est-à-dire que si on les débranche, en général, ils continuent à vivre.
Donc bien sûr, il n'est pas question de
prélever ces gens-là. Et on a des critères très précis médicalement pour les distinguer. Et il n'y a pas d'erreur. Contrairement à ce que parfois on laisse entendre, il n'y a pas d'erreur. Donc, les médecins ne se trompent pas entre un coma végétatif et une mort cérébrale.
Alors, au cours des années, donc à partir des années 70 jusqu'à aujourd'hui, on observe deux tendances. Au début, les Français sont favorables à faire les transplantations, que ce soit à partir de personnes, de donneurs morts de manière cérébrale ou de donneurs de vivant à vivant. Et puis, petit à petit, il va y avoir un retour un peu en arrière et les Français vont finalement être de moins en moins favorables. Comment on l'explique et pourquoi ce retour en arrière alors que dans d'autres pays européens ou même aux États-Unis, c'est l'effet inverse?
Alors c'est un peu, il y a énormément de médecins, sociologues, juristes, historiens qui se sont penchés sur la question de savoir effectivement pourquoi on observe un recul en particulier des dons décédés. Hein, c'est pas tellement pour le don entre vivants qui a plutôt tendance à augmenter en ce moment en France, mais plutôt pour les donneurs décédés, où là, il y a eu une diminution assez importante des dons à partir des années 90. C'est-à-dire qu'on est à peu près à 30% de refus de la part des familles, donc, pour qu'un de leurs proches soit prélevé. Alors, on l'explique en général, en particulier par des scandales, entre guillemets, qui ont choqué le grand public. Et en particulier, un scandale qui s'est déroulé à Amiens, où un jeune homme a été prélevé, puisque ses parents n'avaient autorisé donc le prélèvement, à la condition qu'il ne soit pas prélevé ni de son cœur, ni de ses cornets. Pour eux, symboliquement, c'était important qu'ils gardent ses yeux et son cœur. Or, par une erreur administrative, ils ont reçu la facture du prélèvement, et dans laquelle étaient détaillés les prélèvements qui avaient été effectués. Ils ont donc appris que leur fils avait été prélevé des yeux et du cœur, ce qui les a énormément choqués et ce qui a fait effectivement un grand scandale, puisque c'était des gens qui avaient accepté le prélèvement, qui avaient fait cette démarche en pensant que c'était une bonne chose et qui s'étaient trouvés floués et donc terriblement blessés. Donc ça, c'est ce type de choses peut avoir fait diminuer les dons.
Vous pensez qu'en fait, c'est un manque de confiance envers la médecine ?
Il y a eu un manque de confiance envers le monde de la transplantation suite à ça. C'est sans doute pas le seul facteur explicatif, hein, mais ça y a participé. Il y a sans doute aussi le fait que l'information n'est pas très très claire sur le don à partir de donneurs décédés, puisque la loi dispose que toute personne qui ne s'y est pas opposée de son vivant est donneur. Hein. Si on ne s'oppose pas au prélèvement, on est considéré comme donneur. Voilà. Mais comme elle précise qu'il faut que le médecin doit chercher à recueillir l'avis des proches, non pas pour leur avis à eux, mais pour qu'ils expriment l'avis que peut potentiellement la personne décédée aurait exprimé de son vivant, eh bien, il s'est avéré que souvent la famille exprimait son propre sentiment, qui était qu'elle refusait, parce que c'est plus dur d'accepter le prélèvement pour un proche que pour soi-même, quand même. Hein. C'est plus difficile d'accepter que son proche soit privé de ses organes que d'y réfléchir pour soi. Et une fois que la famille a exprimé un refus, on voit difficilement l'équipe médicale dire « Vous, vous refusez, mais votre proche, on ne sait pas, donc on va prélever ». Que la famille exprime un refus en son nom ou au nom de son proche décédé, finalement, une fois qu'elle l'a exprimé, on ne peut pas prélever. C'est pas possible. Il n'y a aucun médecin qui va aller prélever alors que la famille a dit non.
Et pour autant, ces familles-là avaient peut-être un autre discours si jamais il y avait eu un décès avant les années 90.
C'est possible. Il y a eu longtemps avant que les choses se mettent en place aussi. Il y a eu des équipes qui, au départ, ne posaient pas la question. Parce qu'on considérait que c'était trop blessant pour les proches. Donc, il était plus simple de ne pas poser la question, de faire, parce que la personne ne s'y était pas opposée de son vivant, puisqu'il y a des registres qui permettent de l'attester. Il y a eu des équipes qui demandaient, avec des familles qui étaient effectivement peut-être plus favorables au départ, parce que c'était une grande découverte de la médecine. Il y avait un engouement, une fascination pour ces grandes réussites, donc avec peut-être effectivement plus de volonté de donner. Mais peut-être c'est lié aussi peu à peu à la régulation des pratiques, qui fait que, bon, bah, on a quand même plus eu tendance à proposer aux familles, de façon plus systématique, à prendre en compte leur avis. Et puis, il y a effectivement cette idée que peut-être ça reflète simplement l'espèce de soupçon qui est général à l'heure actuelle sur les sciences en général.
Pourtant, l'établissement du don d'organes fait de la communication en ce sens pour essayer de nous persuader. Enfin, je ne voudrais pas non plus avoir un discours qui va dans un sens ou dans un autre, mais qui a un discours pour favoriser, en tout cas, notre évolution d'esprit pour que nous-mêmes, nous ayons une propre réflexion et que nous ayons, que nous puissions donner nos organes à notre mort. Mmh. Alors, c'est bizarre, en fait. On nous incite à... Plus à la limite, on nous incite à donner nos organes,
moins ça fonctionne.
Moins ça fonctionne.
Alors, c'est pas exactement le cas, puisque ça fait quelques années là qu'il y a de nouveau une diminution des refus, qui n'est pas encore énorme, mais donc, ça laisserait penser que la politique de l'établissement français des greffes, qui est maintenant l'agence de la biomédecine, fonctionne. C'est-à-dire qu'à force d'informer les gens, peu à peu, on réussit à faire passer le message et à les convaincre que c'est important d'y réfléchir de son vivant, de prendre position soi-même, de ne pas mettre ses proches dans une situation difficile où ils doivent répondre alors qu'ils connaissent pas notre position. Il y a sans doute tout ça, mais il y a aussi sans doute une part des refus qui est difficile à faire diminuer parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui pensent que ça vient mettre en cause le rapport qu'on a avec la mort et avec le corps du proche qui est décédé. Il faut savoir que la préparation du corps pour l'enterrement, etc., ça fait partie du processus de deuil. Et que donc, il y a sans doute une part des refus qui s'explique par le côté extrêmement difficile de savoir qu'on va toucher au corps de la personne qu'on a aimée, qui représente encore cette personne, qui la symbolise, et donc à qui on ferait subir une atteinte qui peut paraître insupportable. Donc, il y a certaines études qui laissent penser ça, qu'il y a une part des refus qui ne pourra pas être dépassé simplement parce que ça touche à la conception qu'on a de la mort.
Je vous propose de marquer une courte pause, Valérie Gatto, et on se retrouve tout de suite après pour, cette fois-ci, parler peut-être des donneurs vivants. Nous allons parler plus en détail et des risques qu'ils peuvent encourir, entre guillemets, suite à un don. À tout de suite.
Il est là, il est venu, le chevalier des mots, celui qui s'est battu sans peur et sans reproche pour que vive le bon français, qui nous a fait aimer la lecture et même l'orthographe, vous l'aurez reconnu, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie. Et quand il parle du vin, son vocabulaire devient gouléant, on croirait qu'il déguste les mots français. C'est un régal, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Valérie Gatto, avec qui nous parlons du don d'organes et des problèmes éthiques qui se posent à travers le don d'organes. Dans cette deuxième partie, Valérie Gatto, nous allons pouvoir parler de ces donneurs vivants, puisque depuis 1976, la France autorise le don de vivant à vivant. Alors bien sûr, avec une législation assez stricte, hein, il faut que ce soit au sein de la famille, une famille maintenant élargie, puisque je crois que depuis 2004, la notion famille... Voilà, la notion de famille est élargie aux époux, il me semble.
Grands-parents, neveux, nièces, tantes, oncles. On est passé de la famille nucléaire, c'est-à-dire très très parents, enfants, frères, sœurs, à la famille élargie, qui comprend les cousins, oncles et tantes, grands-parents,
alors,
etc.
Dans cette seconde partie, on va pouvoir donc parler de ces fameux donneurs. Nous allons pouvoir aussi peut-être regarder ce qui se passe dans les autres pays européens pour avoir un élément de comparaison. Vous avez travaillé pendant un an dans un hôpital, où vous avez pu donc recueillir les impressions, faire une enquête, hein, tout simplement, pour votre thèse, à partir de ces donneurs. Alors justement, ces donneurs, déjà, qu'est-ce qu'ils donnent et dans quel cas de figure on se retrouve avec des donneurs qui font un don de vivant à vivant?
Alors d'abord, on s'est trouvé en France à avoir de nouveaux recours aux dons entre vivants parce que dans les années 90, on a constaté donc qu'il y avait une pénurie d'organes. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement moins de dons issus de donneurs décédés et plus de receveurs pour plusieurs raisons, mais une raison très simple en particulier qui était que les greffes fonctionnaient bien. Donc, il y avait de plus en plus de malades qui étaient susceptibles d'être greffés.
Ça devenait de plus en plus une solution. Ça devient de plus en plus une solution.
Comme c'est efficace, il y a de plus en plus de pathologies qui peuvent être traitées par le recours à la greffe. Donc, on avait une demande qui augmentait et une offre d'organes qui n'augmentait pas du tout, qui avait même tendance à diminuer. Donc, le don entre vivants avait toujours été autorisé. Simplement, en France, c'était une modalité qui était très peu utilisé, parce que les médecins étaient assez réticents à l'idée de blesser quelqu'un pour le bien de quelqu'un d'autre.
Et je dois peut-être même ajouter dans votre thèse, vous faites une petite remarque, comme quoi dans les années 90, il y a aussi une baisse des accidents de la route.
Oui.
Ça joue sur le don d'organes, en fait, avec les morts cérébrales.
Et bien, les situations de mort cérébrale sont assez rares, hein, et elles sont en général issues, effectivement, soit d'un accident vasculaire cérébral, soit d'un accident de la circulation, où la personne est blessée à la tête et donc tout son corps est en parfaite santé en quelque sorte, mais le cerveau est définitivement mort. Donc ça procurait un certain nombre d'organes. Effectivement, comme les politiques ont permis une diminution des morts sur la route, ce qui est une bonne nouvelle, on ne peut que s'en réjouir, mais ça a eu pour conséquence aussi en partie la diminution des dons. Donc on s'est retrouvé dans cette situation-là. Alors, on a eu de nouveaux recours donc à cette possibilité qui était le don entre vivants, qui concerne relativement peu d'organes. On ne peut pas greffer un cœur à partir d'un donneur vivant, bien évidemment. Alors, on peut greffer un rein, c'est vraiment l'organe qui a été au départ le plus prélevé, qui a lancé le don entre vivants. On peut prélever un foie, depuis peu, depuis les années 90, on a mis ça en place, et on peut prélever un poumon, sachant que là, le poumon, c'est encore quelque chose qui se fait assez peu parce que c'est très risqué. Donc, les deux organes principaux, c'est vraiment le rein et le foie.
Les parties.
Oui, on prélève soit un rein, soit la moitié du foie.
Voilà.
Donc, c'est les organes qu'on
peut... Intestin aussi, j'ai vu.
Oui, ça aussi, c'est plus minoritaire. Donc, c'est vraiment essentiellement ces deux organes-là qui sont prélevés à partir de donneurs vivants et transplantés. Alors, d'abord, c'est des techniques qui marchent bien pour les receveurs. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Pour les malades, c'est au moins aussi efficace que la greffe à partir de donneurs décédés, et souvent même plus efficace, puisque l'organe qui est prélevé n'a pas souffert.
Mais j'avais cru comprendre dans votre thèse qu'il fallait que l'organe qu'on allait pouvoir offrir au receveur devait représenter un pourcentage quand même important du corps, sinon il y avait une possibilité de rejet.
Voilà, pour le foie, comme on prélève une partie du foie, le foie est le seul organe qui régénère. Donc il va régénérer, c'est-à-dire repousser chez le donneur, quand on lui en aura enlevé une partie, et chez le receveur. C'est pour ça qu'on peut le prélever, simplement, et le greffer, ça marche très bien. C'est une greffe qui fonctionne bien, Seulement, il y a un risque pour le donneur qui est assez important, puisqu'il y a deux situations où on prélève. C'est soit pour donner à un enfant, donc un parent qui va donner à un de ses enfants, va être prélevé de 40% de son foie. Donc on enlève 40% de son foie, un peu moins de la moitié, qu'on transplante chez son enfant. Là, il y a environ, on dit 5 pour 1000 de risque de mortalité pour le donneur.
De mortalité, hein, oui. Pas de morbidité.
Non, de mortalité, et il y a environ 10 à 20% de risque de complications. Sachant qu'en général, c'est des complications pas très importantes. Ça va être, par exemple, bon, des petites douleurs sur la cicatrice, des difficultés à boire de l'alcool. Certains parents peuvent plus ensuite boire d'alcool parce que leur foie, peut-être, je ne sais pas, l'absorbe moins bien, mais c'est difficile de savoir pourquoi. Peut-être aussi, c'est psychologique, peut-être. J'ai pas d'explication, mais il s'avère que certains peuvent plus boire d'alcool, que d'autres ont y a une maman qui avait beaucoup de crises d'angoisse après parce qu'elle avait des souvenirs de l'opération difficile. Enfin, mais c'est des complications qui sont relativement peu importantes en termes de santé. Et puis pour l'enfant, il y a des très bonnes chances de survie. Quand on prélève quelqu'un pour donner à
un adulte,
que ce soit son fils d'ailleurs ou pas, hein, à partir du moment où il est adulte, que ce soit son enfant, son cousin, son frère ou sa sœur.
Adulte, c'est à partir de 16 ans, hein, j'ai
cru voir. À peu près, c'est-à-dire à partir du moment où l'enfant a une morphologie d'adulte. On prélève 60% du foie du donneur, puisque en dessous de cette quantité-là, le foie ne pourra pas régénérer chez le receveur, qui a besoin d'une masse hépatique
plus importante,
qui correspond à son poids et à sa morphologie, donc plus importante. Et donc là, il y a un risque de mortalité qui est autour de 1%, qui est plus important. C'est une mortalité vraie, c'est-à-dire qu'il y a eu des donneurs qui sont décédés.
Mortalité du donneur, hein, voilà,
oui,
on est
d'accord. Et c'est une mortalité vraie, il y a eu des donneurs qui sont décédés. Ce n'est pas une mortalité estimée en termes statistiques. Il y a un donneur qui est décédé à Lyon en 2000, il me semble. Il y en a qui sont décédés aux États-Unis, en Allemagne, donc ça arrive. Et là, il y a un risque de complications plus importante qui est autour de 40%, avec là des complications vraiment difficiles. C'est-à-dire des patients qui, enfin des donneurs qui peuvent passer en réanimation, qui peuvent avoir des complications pulmonaires, biliaires, donc c'est-à-dire quand les voies biliaires qui sont dans le foie ont été abîmées. Il y a certains qui font des pneumothorax, des épanchements, c'est-à-dire des fuites de bile dans le ventre qui nécessitent d'être réopérées. Enfin, des choses plus difficiles qui vont parfois jusqu'à occasionner un arrêt de travail, enfin une incapacité à travailler qui s'étend sur plusieurs mois, voire un ou deux ans. Donc ça veut dire que sur l'ensemble des donneurs que j'ai rencontrés, j'ai rencontré 20 donneurs, 10 receveurs, comme il y en avait 4 qui n'étaient pas un couple, c'est-à-dire j'ai eu 4 receveurs dont je n'avais pas interrogé le donneur,
oui.
J'ai eu des données sur 24 donneurs et receveurs. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même 6 donneurs sur 24 qui ont eu des difficultés financières et professionnelles.
Les difficultés dont vous parliez à l'instant sur le plan médical.
Qui ont occasionné, voilà, puisqu'ils ont eu des complications médicales, ça a occasionné des difficultés, d'abord en termes professionnels, puisque c'est des gens qui n'ont pas pu immédiatement reprendre leur travail. Habituellement, on dit aux donneurs qu'il y a à peu près un mois d'arrêt de travail où ils vont avoir besoin d'être d'abord à l'hôpital, puis chez eux. Et là, j'ai eu 2 donneurs qui, pendant presque 2 ans, n'ont pas pu retravailler.
Sur 24 ?
Sur 24, voilà. Et puis, 4 autres qui ont eu des difficultés professionnelles moindres, mais ça va de 5 ou 6 mois sans travailler à l'impossibilité de reprendre son poste, donc passer à un poste inférieur, ou bien la perte de chance en quelque sorte, c'est-à-dire des gens qui cherchaient un emploi et qui ont été reçus en entretien et à qui on a dit « mais vous avez prévu de donner un organe, comment ? Moi je ne vais pas embaucher quelqu'un dans ces conditions-là ». Donc c'est assez variable, mais en tout cas il y a 6 personnes qui ont décrit vraiment des difficultés professionnelles, ceci provoquant évidemment des difficultés financières.
Alors ces patients, ces donneurs, je ne sais pas s'ils sont d'ailleurs considérés comme patients. Mais...
Très mystérieux.
Et ils sont, je suppose, prévenus au préalable par toute une équipe médicale des risques encourus.
Alors, bien évidemment, ils sont prévenus des risques qu'ils encourent au plan médical, puisque c'est ce qui fait question pour les médecins et pour les philosophes qui, comme moi, travaillent sur ce sujet. C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce qu'on considère que c'est une bonne chose de prendre un risque important pour la santé de quelqu'un, pour le bénéfice de quelqu'un d'autre ? C'est vraiment ce qui pose question en termes éthiques. Est-ce qu'on considère que c'est bien ? Est-ce qu'on considère que c'est finalement à discuter ?
C'est ce que vous parlez de bienfaisance, dans votre thèse.
Oui, est-ce qu'on est bienfaisant quand on fait ça ? Est-ce qu'on peut considérer qu'on est non malfaisant avec le donneur, par exemple ? Est-ce que vraiment on ne lui fait pas de mal ? Bon. Et c'est un point qui pose question. Mais comme ça pose question, les médecins sont très attentifs à informer les patients et à leur dire, vous savez, enfin, informer et les receveurs et les donneurs du fait qu'il y a un risque. Pour le receveur d'abord, puisque le receveur peut aussi ne pas survivre à l'intervention. La greffe peut ne pas fonctionner, il peut avoir besoin d'une nouvelle greffe. Mais ils préviennent aussi les donneurs du fait que pour eux, il y a un risque pour leur santé. Malheureusement, jusqu'à maintenant, les informations concernaient essentiellement les risques médicaux.
Oui.
Or, c'est sans doute aussi parce que c'est une technique nouvelle, donc on a peu de recul jusqu'à maintenant sur ce que deviennent les donneurs. Il y en a beaucoup dont on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Mais peu à peu, les médecins se sont rendus compte que les patients, suite à ces complications médicales, en fait, vivent aussi des complications sociales, c'est-à-dire en termes professionnels et financiers.
Et psychologique ça, c'est, aussi, je suppose.
Évidemment, psychologique aussi, avec des difficultés qui sont décrites en termes de couple, essentiellement. Quand il y a un parent qui a donné, l'autre qui n'a pas donné, ça peut créer des tensions au sein du couple. Quand on a donné à son conjoint, il peut y avoir aussi des tensions ensuite en termes de « je t'ai donné un organe, comment est-ce que
une notion de,
tu le reçois ?»
Tu es redevable de quelque chose avec cette notion-là derrière.
Il y a eu parfois...
Consciente ou inconsciente d'ailleurs.
Oui, on peut trouver ce genre de choses. Il semble que ce soit paradoxalement assez difficile pour les parents dans le rapport parent-enfant. C'est-à-dire quand on a donné à un enfant très jeune... que ce soit difficile ensuite de construire des liens familiaux équilibrés, mais pas toujours, bien évidemment, ça arrive ponctuellement. Mais enfin, en tout cas, ces problèmes-là commencent à être connus, mais on a moins pris en compte tous les autres problèmes, sans doute parce que c'est des choses auxquelles la médecine ne s'intéresse pas habituellement. On s'intéresse peu aux revenus des gens quand on est médecin. C'est pas quelque chose qu'on prend en compte, ni pour savoir si on va les soigner, ni pour savoir s'ils méritent, etc. Donc, c'est quelque chose qui est assez tabou en médecine. Un médecin qui se préoccuperait des revenus des gens ne serait pas considéré comme un médecin bienfaisant. On doit soigner les gens, quel que soit leur revenu, quel que soit leur niveau. Donc on n'a pas l'habitude de se tourner vers ces questions-là en médecine. Mais là, c'est important parce que suite au don, c'est des gens qui perdent de l'argent quand ils ont des complications.
Parce qu'ils ne reprennent pas leur travail tout de suite, voilà, ou parce qu'on leur refuse une augmentation. Enfin, je ne sais pas.
Et donc, l'information qui est donnée aux patients et qui est vraie, c'est que leurs frais médicaux vont être pris en charge à 100%. Donc, à partir du moment où ils rentrent dans la démarche de don, tous les examens qu'ils font pour savoir s'ils peuvent être donneurs sont couverts par l'hôpital à 100%, ils n'avancent pas d'argent. S'ils ont besoin de se déplacer, les transports sont pris en charge, etc. Quand ils sont hospitalisés, tout est pris en charge à 100%, ils n'ont rien à avancer, rien à payer, et le temps qu'ils restent à l'hôpital, tout est couvert. Par contre, quand ils sortent, ils ne sont plus pris en charge. C'est-à-dire que ce qu'on leur dit est vrai uniquement dans la mesure où ils restent à l'hôpital. À partir du moment où ils sortent de l'hôpital, ils se mettent à dépendre de leur situation particulière. C'est-à-dire que certains ont une mutuelle qui va leur dire « Ah bah oui, vous êtes arrêté pendant 10 jours, vous avez fait ça. On va le prendre en charge, ça fait partie des choses qu'on prend en charge, donc ces gens-là n'ont aucun problème. » Et puis il y en a d'autres qui contactent leur mutuelle parce qu'ils ne peuvent pas retravailler, parce qu'ils sont malades, parce que... Et à qui on dit, mais enfin, monsieur ou madame, c'est une mutilation volontaire. Nous ne sommes pas responsables de cette situation, donc nous ne la prenons pas en charge. Et donc, ils sont soumis complètement aux aléas individuels de telle mutuelle, de telle assurance, de telle situation. S'ils n'ont pas de complications, tout va très bien. Ils n'ont même pas à se poser la question.
Mais alors, finalement, quelles seraient les... Comme vous nous décrivez les choses... Quelles sont les motivations premières du donneur? Est-ce que c'est parce que c'est une pression familiale, puisque finalement les dons de donneurs vivant à vivant donc se fait dans le cadre familial, même si c'est le cadre familial élargi? C'est une pression, c'est une volonté de bien faire vis-à-vis des autres?
C'est très difficile.
Vous qui les avez rencontrés.
C'est très difficile à dire. Il y a énormément de questions sur ce sujet. On s'est beaucoup demandé, c'est une autre question qui se pose en termes éthiques, on s'est beaucoup demandé si les donneurs étaient libres de refuser. C'est-à-dire si on pouvait dire à quelqu'un...
Parce qu'on ne nous présente jamais les choses comme... Même quand on est mort, si on ne dit rien, ça sous-entend qu'on est d'accord pour donner nos organes. Donc nous sommes dans
c'est
une...
C'est rare que la question se pose clairement.
Voilà.
Et là, bien évidemment, on n'est pas considéré comme a priori donneur quand on est vivant. Hein. On est considéré comme a priori pas donneur et on nous pose la question pour savoir si on souhaite participer à ce processus. Donner un de ses organes.
Tout en sachant que si on répond non, on nous regarde différemment.
La question qui se pose, c'est est-ce que, par exemple, un père à qui on dit, voilà, votre fils a besoin d'un organe, la liste d'attente est longue, il y a peu de chances qu'il en ait tout de suite, il en aurait besoin rapidement, sinon son état va se dégrader, est-ce que vous souhaitez donner votre foie? C'est vrai qu'on peut se demander si la personne peut refuser. Et ça, c'est une des questions qui se posent en termes éthiques. Est-ce que vraiment la personne est libre? Puisque la loi précise que le donneur doit être libre et éclairé. Il doit prendre une décision libre et éclairée, c'est-à-dire libre et informé. Alors on peut bien dire qu'ils sont informés, puisqu'on a vu que les médecins leur expliquent les risques qu'ils courent pour leur santé, etc. Alors la première question, c'est est-ce qu'ils sont informés en termes de risques professionnels? C'est moins clair. Maintenant, ça commence à l'être, depuis la loi de 2004. Depuis qu'il y a eu des études qui ont été faites sur ce sujet et qui ont montré ces complications, ça commence à se faire. Mais est-ce qu'ils sont libres? Est-ce qu'ils peuvent refuser? C'était une vraie question. Et moi, je suis partie dans cette enquête avec l'idée que sans doute, ils n'étaient pas libres, que sans doute, on ne pouvait pas refuser de donner. Et de façon très intéressante, les donneurs ne se sentent pas contraints. C'est-à-dire que quand ils abordent ce point-là, quand ils parlent de leur liberté de décision, ils disent qu'ils étaient libres.
Mais ils sont peut-être guidés par leurs émotions, par leurs sentiments.
Ça, c'est tout à fait possible. Mais comme je ne suis pas psychologue, ce n'est pas des choses que je peux, moi, analyser. Ce dont j'ai essayé de rendre compte, c'est de ce qu'ils disent. Or, ce qu'ils disent, c'est que finalement, ils ont réfléchi à la question. Ils ont réfléchi aux risques qu'ils prenaient, aux bénéfices qu'ils attendaient. Et qu'ils ont fait ça parce que ça leur a semblé normal. Alors, bien sûr, c'est une réponse. Bon, ça semble normal, on n'apprend pas grand-chose sur la motivation. Mais en tout cas, ce qu'on apprend, c'est qu'eux n'ont pas le sentiment d'avoir été contraints de se décider.
Et pourtant, vous pensez l'inverse?
Je sais pas. Je dois dire que j'ai pas d'avis tranché sur la question. Je pense que c'est très variable en fonction des situations. Mais je suis pas sûre, finalement, qu'on puisse dire qu'ils sont pas libres. En fait, ce que je pense, c'est qu'ils sont libres au même titre que nous, on l'est dans la vie quotidienne. Il y a plein de situations où on prend une décision plus ou moins contrainte. Parce qu'on s'est engagé auprès d'un ami, parce qu'on a des enfants à charge, parce que, etc. Donc, c'est des tonnes de contraintes qui structurent nos décisions. Et puis, on va prendre la décision en se disant, bah oui, bah, étant donné ma situation, bah, c'est ça que je dois faire, c'est ça que je pense bien de faire. Donc, je suis pas sûre que ce soit très différent. Je pense qu'ils sont aussi pris dans tout ce maillage de contraintes qui leur est propre, qui est le lien avec leur proche qui est malade, la profession qu'ils ont choisie, le nombre d'enfants qu'ils ont, etc. Et puis qu'au sein de toutes ces contraintes qui structurent leur vie, en même temps que nous, ça structure nos vies au quotidien, eh ben, ils vont se décider d'une façon ou d'une autre. Alors, en plus, ce qui est difficile, c'est que je n'ai pas rencontré de donneur qui ait refusé. Parce qu'ils ne sont pas, simplement, ils sont pas classés comme tels. C'est-à-dire que dans les dossiers médicaux, on n'a pas les gens qui ont refusé.
Bien sûr.
Donc ils sont très difficiles à trouver. Donc je ne les ai pas interrogés simplement pour ça, parce que je ne les ai pas trouvés. Mais peut-être eux diraient qu'ils ont... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au moins, il y en a qui refusent. Ça, c'est sûr. Donc ça veut dire qu'il y en a qui peuvent refuser.
Et sur les personnes qui ont donné, les personnes que vous avez rencontrées et pour lesquelles il y a eu des complications, est-ce que, quand vous les avez revues après, ils ont eu des regrets?
Non.
Parce qu'ils n'osent pas vous le dire? Enfin, je sais ce que je veux dire.
Oui, je vois bien ce que vous dites. Est-ce que c'est entendable de dire je regrette de l'avoir fait?
Oui.
Est-ce qu'ils peuvent l'exprimer? J'en sais rien. Une fois encore, c'est vrai que moi j'ai abordé la question en tant que philosophe, donc j'ai pas cherché à analyser en termes psychologiques leur discours, simplement parce que j'ai pas les compétences pour le faire. Mais c'est vrai qu'aucun ne m'a dit avoir regretté. Et il y en a même qui, après des complications, etc., disent si c'était à faire, je le referais. Par contre, ce qu'ils disent et qui est intéressant, c'est qu'ils disent, mais il faudrait qu'il y ait quelque chose de prévu pour quand il y a un problème.
Alors voilà, on va peut-être...
C'est-à-dire qu'ils ne regrettent pas, mais ce qu'ils estiment, c'est qu'ils ont fait un don. Ils sont bien conscients que ça a bénéficié à leurs proches, mais aussi à la société, puisque ça permet à d'autres d'avancer en liste d'attente, ça libère des places en liste d'attente, donc c'est un bien pour tout le monde. Et qu'en contrepartie, la société n'a pas du tout pris en compte leurs difficultés. Et ceux qui ont vécu des difficultés importantes disent ça, disent « je ne comprends pas qu'il n'y ait pas ». Alors, ils le disent avec leurs mots, hein. Certains disent « une caisse prévue à cet effet, avec de l'argent, qui viendrait ni du donneur ni du receveur ». Il y en a qui disent « il faudrait un statut protecteur pour le donneur, qui fasse que, quand il a des soucis, eh ben, il ne se retrouve pas complètement seul, complètement dépourvu, avec aucun recours ». Et c'est là-dessus que portent en fait leurs revendications. Je crois qu'ils ne regrettent pas d'avoir donné parce qu'ils sont vraiment dans le cadre du don. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils ont fait un geste pour leurs proches. Et qu'ils n'attendent pas en retour ni d'argent, ni... Ils sont choqués quand on leur dit « mais est-ce que, par exemple, vous pensez qu'on pourrait payer les gens pour ça ?» Ça les choque énormément. Ils disent « non, mais on ne fait pas ça pour de l'argent, on fait ça parce qu'on veut aider son proche, parce que... » Ils ne veulent surtout pas faire ça pour de l'argent.
Mais c'est vrai que très vite, on peut masquer
ce qu'ils disent, c'est « par contre... » Quand on a des soucis comme ça, on ne devrait pas se retrouver soi-même à payer pour le geste qu'on a fait. Et ils disent ça au sens propre. C'est-à-dire que certains ont dû faire un emprunt pour couvrir les dettes que ça avait occasionnées. D'autres se sont retrouvés vraiment en procédure de surendettement auprès de leur banque pour essayer de sortir de la situation dans laquelle ils étaient. Donc ils disent on ne devrait pas avoir à payer, nous, de notre poche, pour les conséquences du geste qui nous a occasionné des complications.
Alors je vous propose de marquer une courte pause, une seconde courte pause, et puis nous allons pouvoir parler en détail de cette troisième partie qui est d'une possible, alors je ne sais pas comment dire le terme,
indemnisation.
Indemnisation, ou pas rétribution, mais alors indemnisation en cas de complications. Donc quand on parle d'indemnisation et qu'on parle d'argent, ça provoque des réactions épidermiques. Alors on se retrouve pour cette troisième partie épidermique. À tout de suite.
La maladie d'Alzheimer est un domaine de la recherche qui est en friche. Il reste encore beaucoup à découvrir. Canal Académie vous propose un état des lieux avec professeur Jean-Jacques Auve, spécialiste du vieillissement du cerveau, et le docteur Jean Petitpré, qui est président de la Fondation France Alzheimer. Nous vous proposons également de découvrir cette association France Alzheimer qui œuvre à une meilleure prise en charge de la maladie et vient en aide aux familles. Ces deux émissions sont disponibles sur notre site.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Valérie Gâteau. Avec vous dans cette troisième partie, Valérie Gâteau, je rappelle pour les auditeurs qui viendraient peut-être de prendre en cours de route l'émission que vous êtes philosophe, que vous avez travaillé sur la notion de don d'organes, et donc de don d'organes de vivant à vivant, et de toutes ces notions d'éthique hein, qui vont avec. Dans cette troisième partie, on va aborder un sujet sur lequel vous commencez déjà à venir en fin de seconde partie, qui est une indemnisation éventuelle, potentielle, de ces donneurs vivants qui sont confrontés, dans certains cas, à des complications. Alors, effectivement, dès qu'on parle d'indemnisation, de rétribution, on pense tout de suite à il y a une notion de commerce d'organes, en fait. Hein.
Voilà, et on rentre sur le sujet tabou de la commercialisation du corps, qui est effectivement quelque chose de très difficile à admettre et donc qui provoque des réactions très fortes de réticence, de dégoût, ce qu'on peut tout à fait comprendre.
Et vous, en l'occurrence, votre position de philosophe, elle est en faveur du commerce du don d'organes ou
a priori, j'ai pas de position pour l'instant sur le commerce d'organes. Simplement, si, je pense que celui qui est illégal et qui est de l'ordre du trafic est absolument condamnable, ça, mais personne ne dira le contraire. Je ne sais pas que penser d'un potentiel marché des organes qui serait organisé par une instance étatique, etc. Simplement parce que je pense qu'on a trop peu de données sur la question pour vraiment y réfléchir de façon constructive. Mais quand on parle d'indemnisation, il ne s'agit pas de la même chose. Alors je vais essayer de clarifier un peu les choses.
Bien sûr, oui.
Bon, d'abord, pour rappel, hein, sur 24 donneurs sur lesquels j'ai eu des données, il y en a 6 qui ont eu des complications. Donc c'est une partie assez importante, mais en même temps, ça en laisse 18 qui n'ont pas eu de complications, qui se portent bien, et qui n'ont pas eu de problème ni financier ni professionnel. Donc c'est juste pour remettre un petit peu, comme on a beaucoup parlé des complications, remettre en perspective les choses. Hein,
oui,
il ne s'agit pas non plus de quelque chose qui est destructeur pour les donneurs et que, bon, qui serait de ce fait condamnable. Si tous les donneurs étaient dans cette situation, on se dirait, mais quelle horreur, pourquoi on continue à le faire ? Ce n'est pas le cas. Mais il s'avère qu'effectivement, il y en a certains qui disent, nous, on aurait besoin, quand on a des problèmes, d'être indemnisés, en tout cas, de ne pas avoir à donner de l'argent de notre poche pour ces conséquences-là. Alors, quand on parle d'indemnisation, presque immédiatement, effectivement, comme vous l'avez dit, on tombe dans le débat sur la rémunération. Pourquoi ? Parce que, en pratique, c'est très difficile de penser une indemnisation. Parce que, alors, on peut se dire, si les gens perdent leur salaire, on va compenser et on indemnise, c'est-à-dire qu'on leur rend leur salaire.
Mais on qui, alors ?
L'État.
L'État. L'État. Et non pas une mutuelle potentielle ou, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, certaines mutuelles peuvent prendre en charge.
Alors, le problème, c'est que si c'est une mutuelle, c'est à la charge du donneur. C'est-à-dire que c'est lui qui doit payer cette mutuelle, qui sera sans doute à un prix plus important. Bon, donc c'est déjà pas finalement très juste.
Mais est-ce le rôle de l'État que d'indemniser des donneurs, vu que c'est une démarche personnelle ?
Il me semble que c'est du rôle de l'État parce que même si on est dans le cadre d'une démarche personnelle, c'est-à-dire qu'on donne à un de ses proches, en pratique, ce geste bénéficie à l'ensemble de la société. Nous avons tous 4 fois plus de chances de nous retrouver dans la situation d'être en besoin d'organes que dans la situation d'en donner un. Et quand un donneur vivant donne son organe, son proche est retiré de la liste des personnes qui sont en attente, ce qui fait qu'il libère une place. Et donc, chaque personne qui est en liste d'attente bénéficie de ce geste. Donc, la société dans son ensemble en bénéficie. Donc, c'est pour ça qu'on imagine, quand les gens réfléchissent à l'indemnisation, elle est pensée en termes d'État. D'abord, parce que c'est sans doute juste que la société qui bénéficie de ce don soit celle qui aussi couvre les risques, mais aussi parce que sinon, si c'est en fait dans l'ordre du privé, ça risque d'être très différent en fonction des donneurs. Si chacun choisit son assurance, quand on choisit l'assurance la moins chère, on est très peu remboursé. Donc ce sera de nouveau complètement aléatoire. Et puis il peut y avoir des problèmes d'offres, de demandes, de concurrence, de choses comme ça, qui sont sans doute pas souhaitables dans ce domaine-là. Mais le problème, c'est que si on dit, alors on va indemniser les gens, c'est-à-dire que quand ils perdent leur salaire, ils sont remboursés. À ce moment-là, il deviendra plus intéressant pour les hôpitaux et pour l'État de prélever des gens qui ont peu de revenus. Parce que si vous prélevez quelqu'un qui gagne le SMIC et qu'il perd son salaire pendant 6 mois, ça coûte pas très cher. Si vous prenez un ministre qui donne son organe et qu'il perd son salaire pendant 1 an, ça coûte plus cher. Si vous prenez un chef d'entreprise ou un grand PDG, ça coûte encore plus cher. Donc le problème, c'est en fait un problème de justice. C'est-à-dire que dès qu'on pense à l'indemnisation, on se trouve dans une situation, que ce soit l'indemnisation ou la rémunération, où il est probable, où il est risqué en tout cas, de prendre cette décision parce que ça risque d'inciter soit les plus pauvres à donner, c'est-à-dire si on dit, on fixe un prix par exemple, on pourrait dire, pour éviter ça, pour éviter que la société ait intérêt à prélever les plus pauvres, on va fixer un prix. On dit pour le don de foie, c'est tant, pour le don de rein, c'est tant, et puis point.
Mais
on a des complications ou pas.
Il faut que ce soit un prix entre guillemets sous-évalué pour pas inciter les gens à donner pour avoir un chèque
retour.
Alors
il faut que ce soit ni trop élevé justement pour ça, mais ni trop faible non plus, puisque il faut que ça puisse couvrir un éventuel préjudice, dont 6 mois de perte de salaire. Par exemple.
Le problème est insoluble.
Donc c'est assez difficile. Donc il faut effectivement. Alors si on dit on fixe un prix, le problème c'est que ça ressemble vraiment à de la vente. Là on dit bon,
oui.
Alors on vous indemnise, mais comme la somme est la même pour tout le monde, bon, et sans doute si la somme est la même pour tout le monde, de nouveau on va se retrouver avec une incitation qui va peser plus sur les plus pauvres. Puisque les plus riches vont se dire « quand même, cette somme-là, j'en ai pas besoin », alors que quelqu'un qui est pauvre, il peut en avoir besoin, et une somme relativement faible peut lui sembler tout à fait intéressante. Donc c'est vrai que ce serait très difficile à mettre en place. Mais d'abord, il me semble que c'est pas pour autant impossible, c'est-à-dire qu'en creusant le terrain, on peut imaginer des solutions. Alors ça, c'est bien évidemment pas de mon ressort. Moi, je fais de la philosophie, je suis pas là pour réfléchir en termes d'économie, de loi, etc. Mais ensuite, il me semble que ça pose aussi une autre question, qui est de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on considère que l'argent est une contrainte et dans quelle mesure on considère qu'il n'en est pas une. On a tendance en France à considérer que tout ce qui est financier, c'est un peu sale. Tout ce qui est gratuit, c'est bien. Et tout ce dans quoi rentre de l'argent...
Ce qui n'est pas le cas dans les autres pays, chez nos voisins européens, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays.
Moins.
Par exemple, en Norvège, par exemple, on n'a pas ces problèmes de notion d'argent. On se pose moins de questions. Au Royaume-Uni,
en Norvège, on donne plus d'organes, mais je ne sais pas si c'est indemnisé. J'ai pas de données là-dessus. Mais aux États-Unis, il y a beaucoup plus de donneurs. Mais c'est plus des modes de raisonnement. C'est-à-dire que dans un raisonnement plutôt anglo-saxon, en général, on considère que finalement l'individu est libre de décider de ce qui est bien pour lui.
Il
est maître de son corps et de sa pensée. Et donc, s'il décide librement qu'il peut céder un organe, que ce soit pour un don ou pour de l'argent, puisqu'il n'est pas dit qu'il soit obligatoire de recevoir cette indemnisation non plus. On n'oblige pas les gens à recevoir une indemnisation. Ils ont la possibilité de le faire. Ça veut dire qu'on n'annule pas la possibilité du don. Quelqu'un peut tout à fait dire, moi je ne veux pas d'indemnisation, je veux être dans le don, je ne veux pas avoir de soupçons autour de moi. Donc... Mais si on ouvre cette possibilité... En fait, on peut certes imaginer que ce serait une contrainte, que ça va forcer les plus pauvres à donner, mais on peut aussi imaginer que ça puisse libérer les gens. Parce que quelqu'un qui est, par exemple, dans le cadre du don familial, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas évident de savoir s'il peut refuser. Si on peut refuser un de ses proches et dire « je vais pas donner, j'ai pas le courage » ou « c'est très difficile ». On peut imaginer que s'il y a de l'argent en jeu, sous forme d'indemnisation, ce soit aussi plus facile de dire « eh bien... je ne souhaite pas rentrer dans ce type de démarche, je ne souhaite pas être dans un échange dans lequel moi je donne quelque chose et je reçois de l'argent. » Donc on peut imaginer que ce soit une façon aussi de libérer la décision. Ça, c'est une première piste de réflexion. Et puis enfin, on peut imaginer aussi que ça ait des conséquences positives pour le receveur. C'est-à-dire que lui puisse aussi vivre ce don avec l'idée que le donneur qui a pris un risque pour sa santé... qui a pris un risque pour sa vie, eh bien, ne se trouve pas complètement démuni et qu'en contrepartie, il a obtenu une indemnisation qui couvre les risques pour lui. Et donc, le receveur peut se sentir moins redevable du geste qui a été fait.
Moins.
Voilà, donc on peut imaginer aussi que ça ait des effets positifs. Ça aurait sans doute pas uniquement des effets négatifs. Alors bien évidemment, moi j'ai passé 4 ans à travailler sur le sujet, c'est un sujet que je commence à connaître, mais en même temps, c'est ce que je vous disais, j'ai pas les compétences pour réfléchir en termes de loi, réfléchir en termes économiques, mais je pense qu'on est à un moment où il est vraiment important d'ouvrir le débat, de faire réfléchir les gens là-dessus, et d'essayer de trouver des solutions qui seraient viables.
Alors justement, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer peut-être des personnes du gouvernement, des députés qui justement pensent à réfléchir, à réviser cette loi ?
Alors, bien évidemment, j'ai rencontré peu de membres du gouvernement, simplement pour une raison très simple, qui est que quand on fait un travail de thèse, c'est le premier vrai travail de recherche qu'on fait, on est encore au tout début de sa carrière, et donc c'est rare qu'on rencontre des gens qui sont des décideurs.
Mais il y a eu un écho quand même suite à votre thèse.
Il y a eu quelques échos. Alors d'abord, ce travail a été rendu à l'Agence de la biomédecine pour que les gens qui avaient financé une partie de ce travail soient au courant de ce qu'on avait trouvé. Avec Anne Fagolargeau et Olivier Soubrane, qui étaient mes deux directeurs, nous avons publié un article dans la presse grand public, c'est-à-dire dans Le Monde, afin d'exposer ces résultats et de dire, voilà, il est temps maintenant de réfléchir à l'indemnisation et de pas rester seulement dans un débat d'idées, mais de prendre en compte ce que disent les donneurs.
Et en plus, il faut quand même préciser une chose, c'est que dans le domaine de la médecine, de la bioéthique, des bioéthiciens sont favorables à l'indemnisation, à la rémunération, même si le terme est tout de suite
plutôt à l'indemnisation,
provoque des réactions. Donc, l'indemnisation sont favorables, les bioéthiciens sont favorables à l'indemnisation. Et alors, en face, on a le grand public qui l'a. Et tout à fait contre. Comment on explique cette grande différence entre le monde médical et le grand public qui finalement est concerné?
Alors, c'est même encore plus compliqué que ça, parce que ce sont en général les bioéthiciens qui sont non médecins, qui sont favorables à l'indemnisation et qui disent, en fait, ça permettrait de compenser les risques que prennent les donneurs, etc. Les médecins, ils sont très défavorables en général, sans doute pour la raison que je vous disais, qui est une raison tout à fait valable, qui est que en médecine, on n'a pas l'habitude de faire entrer, surtout en France, des considérations d'argent. En France, la médecine, c'est un droit pour tout le monde, on ne doit pas se demander combien gagne qui, on doit apporter à chacun les mêmes chances, les mêmes traitements, les mêmes... Alors bien sûr, c'est un principe, on ne dit pas que ça marche toujours en pratique, mais c'est là-dessus que se fonde en tout cas la profession médicale. Et donc quand il s'agit de se dire, on va commencer à donner de l'argent, à faire, alors il va falloir, effectivement, c'est ce que je vous disais, alors l'hôpital va commencer à se demander, ah oui, mais alors celui-ci gagne beaucoup d'argent, est-ce qu'on va le prélever parce que si jamais il a un souci, enfin bref. Je pense que c'est des considérations qui rebutent les médecins, et je comprends, parce que c'est pas leur rôle de rentrer dans ces considérations-là, donc on peut l'expliquer comme ça. Quant au grand public, j'imagine que c'est quelque chose de l'ordre, mais c'est mon interprétation, de ce que disent les donneurs. C'est-à-dire que les donneurs sont dans une démarche de don. Ils disent « moi, j'ai pas fait ça pour de l'argent ».
Et d'ailleurs, le terme de don est-il exact? Puisque comme ils ne sont pas forcément libres à la base, le terme de don est-il le bon?
Il est discutable dans la mesure où, en général, on choisit... Ce qui caractérise le don, c'est le choix qu'on fait de donner plutôt que de faire autre chose. Par exemple, si je vous offre un livre, je préfère vous l'offrir que vous le vendre, que vous le prêter, que vous l'échanger. Donc c'est une modalité parmi d'autres modalités dans lesquelles les objets circulent. Un livre peut circuler parce qu'il est volé, parce qu'il est donné, parce qu'il est prêté, parce qu'il est échangé, parce qu'il est vendu. C'est énormément de modalités différentes. Et en France, il n'y a qu'une modalité, c'est le don. C'est pas un choix. On ne choisit pas de donner plutôt que. On choisit de donner plutôt que de pas donner, point. Il n'y a pas d'autre solution. Donc effectivement, il y a certains auteurs qui disent « c'est pas vraiment un don, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité que cette modalité-là, donc c'est un don plus ou moins contraint ».
Et en plus, si on introduit cette notion d'indemnisation, le don change encore de couleur.
Mais c'est vrai que moi, il me semble que les donneurs, dans ce qu'ils disent, ils sont vraiment dans une démarche de don. C'est-à-dire qu'ils choisissent librement qu'ils vont se défaire de leur organe ou de la partie de leur organe pour le bien de leurs proches. Et donc, non seulement c'est effectivement un don au sens où ils n'attendent rien en retour, mais en plus, c'est d'autant plus un don que si on les questionne sur la rémunération, ils sont choqués. Et ils répondent « je veux surtout pas être payé, c'est pas pour ça que je le fais ». Et donc, il me semble qu'en fait, l'indemnisation peut participer du don parce qu'elle peut simplement être une reconnaissance de la société de ce geste. Et donc, on peut décider que la société non seulement reconnaît que c'est un geste qui doit être valorisé, c'est-à-dire que c'est bien de donner un de ses organes, ça bénéficie à l'ensemble des malades. Mais en plus, on l'assume et on couvre les risques. Et on ne met pas les donneurs dans une situation où ils doivent assumer les risques tout seuls.
Donc ça veut dire aussi qu'on va dans le sens que donner un organe, c'est bien.
Oui, mais on le valorise surtout parce que c'est déjà la politique actuelle de dire donner un organe, c'est bien.
Oui, c'est pour ça.
C'est déjà ce qu'on dit. Et c'est déjà ce qu'on pense en grande majorité. Les gens d'ailleurs, la grande majorité des gens pensent que le don d'organes, c'est bien. 30% de refus, c'est certes important, mais c'est pas non plus énorme. Ça fait 70% des gens qui sont prêts à donner. Et on oublie souvent de le dire, c'est important. Je connais pas beaucoup de sujets où il y ait 70% des gens qui soient d'accord. si vous m'en trouvez. Moi, j'en connais pas beaucoup. Hein. On a certes élu Chirac avec 80%, mais enfin, c'est quand même pas fréquent. Donc, c'est rare que 70% des gens soient d'accord. Ça veut dire qu'il y a quand même une position générale qui est effectivement que donner un organe, c'est bien. Et il y a peu de gens qui s'y opposent. Mais c'est pas pour autant que dans la société, on le valorise vraiment. Donc, il me semble que valoriser le don, c'est aussi reconnaître qu'il a des conséquences négatives, parfois, pour le donneur. Et donc, aller au bout de la démarche et dire... C'est un geste qui est un bien pour la société. Donc non seulement on le reconnaît, mais en plus, on protège les gens. Et on ne les laisse pas dans une situation où ils sont démunis.
Alors vous, en tant que philosophe, ce que vous avez pu écrire, ce dont vous avez pu rendre compte, maintenant, concrètement, va aller sur quelle table et est-ce que ça va servir à des choses peut-être plus concrètes ?
Alors, c'est ce que je vous disais, j'espère. C'est pas évident de faire entendre ce message-là. Je vous dis, c'est passé par l'Agence de la biomédecine à qui on a rendu les résultats. Ça a été publié dans Le Monde. On a un projet peut-être aussi d'en faire un documentaire, c'est-à-dire de montrer un peu la réalité des difficultés après le don, mais aussi des côtés positifs. Parce que, bon, quand je parle des difficultés, on a l'impression que c'est seulement une épreuve. C'est pas le cas. Il y a énormément de gens pour qui ça se passe très bien. Donc c'est vraiment essayer de prévoir des modalités qui permettent à ceux qui en souffrent de ne pas en souffrir outre mesure. Mais en gros, c'est quand même quelque chose qui est positif et qui se passe bien. Donc bon, essayer de faire passer un peu ce message-là à travers un documentaire. Et puis, en dehors de ça, ça fait déjà pas mal de pistes. J'ai participé à différents colloques médicaux, à différentes conférences où j'ai à chaque fois essayé de faire passer ce point de vue-là.
Et vous pensez que petit à petit, dans l'inconscient collectif, nous allons changer d'avis, que nous allons peut-être nous orienter vers une indemnisation ? Ou est-ce qu'il va falloir encore pas mal
possible.
De temps ?
Il est possible que peu à peu on y vienne. La dernière conférence que je suis allée écouter était une journée organisée par Monsieur Fannier. Donc c'était les journées parlementaires de réflexion sur les prochaines révisions de la loi de bioéthique. Et effectivement, il a été question de la gratuité du don. Et certains ont dit que sans doute, c'était un sujet qui allait de nouveau être discuté, non seulement parce qu'on commençait à documenter effectivement des situations où il y avait besoin réellement d'une indemnisation, mais aussi parce qu'au niveau international, la pression est assez forte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres pays aussi qui disent « il faut indemniser ». Donc ça joue aussi, quand on est surtout maintenant qu'on est dans l'Europe. Bon, si nos voisins européens commencent à indemniser, c'est difficile de maintenir une position...
Ce qui n'est pas encore le cas.
Ce qui n'est pas encore le cas, mais qui est très discuté et qui sans doute va arriver dans les années qui viennent.
Eh bien, merci Valérie Gâteau de nous avoir donné toutes ces précisions. Maintenant, on en sait quand même un peu plus hein, sur ces donneurs vivants, mais également aussi sur ce petit historique que nous avons pu faire au début sur les transplantations et le don d'organes. Je rappelle donc que vous travaillez au Collège de France en compagnie d'Alpha Golarjo, qui était donc votre directrice de thèse. Eh bien, merci de nous avoir rendu visite. J'invite nos auditeurs à aller faire un tour sur le site internet du Collège de France. Et puis également à écouter l'intervention d'Alpha Golarjo sur notre antenne Canal Académie. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis à bientôt. Au revoir.